Chapitre 24. Marie-Lune.
Oh, Is ! Pousse plus fort, Chris !
Chrysante soupira.
On n'y arrivera jamais tout seul, tous les deux. Tu veux que j'aille demander des renforts dans le dortoir des savants ?
Chrysante lui tira la langue. Elle avait rejoint Zizo dans la chambre du sarcophage. Elle avait brisé l'œil d'Horus, après l'avoir entendu frapper contre le soupirail. Il avait trouvé un long bâton de bambou dans la pièce, posé à côté du sarcophage, comme s'il n'avait été abandonné là que pour servir à casser la vitre. Par le carreau brisé, Zizo lui avait glissé la boussole.
« Je t'attends, toujours vers l'est !»
Chrysante, une fois entrée dans la chambre mortuaire, avait fermé la porte derrière elle. La pièce n'était plus éclairée que par la faible lueur du soupirail et par la torche coincée dans une anfractuosité du mur. Lali les regardait, adossée contre un mur, ses yeux peints grands ouverts. Pas de danger qu'elle se lève pour les aider. Chrysante et Zizo arc-boutèrent leurs forces encore pendant de longues minutes avant que le couvercle du sarcophage glisse enfin de quelques centimètres, assez pour y introduire le bâton de bambou et faire levier. Le bâton plia. Zizo crut plusieurs fois qu'il allait se casser net sous le poids du bloc de pierre, mais non, sa taille semblait avoir été calculée avec précision pour résister à la masse du couvercle, et, centimètre après centimètre, celui-ci glissa. Il menaça même bientôt de basculer sur le côté. Zizo et Chrysante réagirent assez vite et, avant que le couvercle ne se fracasse sur le sol, dans un vacarme qui aurait sans doute réveillé même les plus sourds des savants, ils parvinrent à amortir sa chute et à le poser à bout de bras. Ils ne prêtèrent aucune attention à leurs muscles tétanisés des épaules jusqu'aux poignets et se précipitèrent pour regarder à l'intérieur du sarcophage. Ils se hissèrent sur la pointe des pieds et découvrirent un second sarcophage.
Forcément, lâcha Zizo, dépité.
Il avait appris, lors des rares cours d'histoire qu'il avait suivis, que les tombes des pharaons étaient souvent constituées de plusieurs sarcophages emboîtés comme des poupées russes.
« Regarde, il y a quelque chose de gravé. »
Zizo décrocha la torche et l'approcha de la tombe ouverte. Chrysante avait raison. Sur le couvercle du second sarcophage était gravé un bref texte. Ils se penchèrent plus encore et lurent les mots qui dansaient dans l'ombre des flammes. « Mes enfants, je m'endors ici, précisément où le soleil se lèvera chaque jour et d'où refleurira un nouveau monde. Grâce à vous tous. Je vous ai toujours tous traités également, je vous ai tous aimés autant. Mais je ne peux vous laisser définitivement seuls, sans dire au revoir à mes deux enfants, ceux issus de ma chair et de mon sang. Vous, mes jumeaux, toi, mon fils que j'adore, Ogénor, et toi, ma fille chérie, dont j'ignore le nom qu'on t'a choisi aujourd'hui. J'espère que vous vivrez dans un monde de paix, enfin réconcilié. C'est toujours ce que j'ai voulu. Que se lève un monde nouveau et que celui-ci soit plus beau. Je vous en laisse les clés, à vous désormais de le protéger. Votre maman à tous, Marie-Lune. Ni Zizo ni Chrysante ne prononcèrent un mot, mais les questions dans leur cerveau tournaient à fond devant ce flot d'informations. Ogénor était donc le fils de Marie-Lune. Son vrai fils. Ça expliquait tant de choses. Et il avait une sœur jumelle, vivante, mais dont Ogénor lui-même devait ignorer le prénom. Qui pouvait-elle être? Ils échafauderaient des hypothèses plus tard. La priorité était de soulever le second couvercle. À la différence du premier, il était sculpté dans du bois et non dans de la pierre. Et il leur parut particulièrement léger. Ils le posèrent contre le mur, près de la torche, et se penchèrent aussitôt sur le second sarcophage. Ils retinrent leur respiration.
Jamais il n'avait rien vu d'aussi beau. Marie-Lune dormait là, dans sa tombe de bois. Son corps était entièrement recouvert d'une armure de bronze, mais c'était surtout son visage qui hypnotisait les deux explorateurs. Un visage couvert d'un masque d'or. Le métal précieux étincelait presque aveuglant, comme s'il s'était retenu de briller pendant des années et que tout son éclat se libérait. Une fine lune était gravée sur le front doré. Marie-Lune. Ce monstre qui avait refusé d'ouvrir les portes de son château aux enfants du dehors ne put s'empêcher de penser Zizo. Elle était la dernière adulte vivante, d'après les vidéos de la rotonde d'Apollon. Mais qui, alors, avait refermé sur elle le sarcophage? Sûrement pas des enfants de 5 ans. Leurs regards, subjugués malgré eux par la beauté du masque mortuaire, descendirent vers l'armure de bronze. Sur le cœur de Marie-Lune était posé un énorme diamant. Lui aussi étincelait dans la pâle lumière, tel un prisonnier trop longtemps privé de la couleur du ciel. Un peu plus bas, à hauteur de son ventre, une feuille de papier était posée, épaisse, une sorte de papyrus roulé sur lui-même et fermé par un ruban rouge. 3 lettres, majuscules, étaient tracées au verso du parchemin, comme pour en garantir l'authenticité. N et O. Avec délicatesse, Zizo saisit le rouleau. Il s'apprêtait à dénouer le ruban quand la porte de la chambre mortuaire s'ouvrit brusquement. Le fauteuil d'Augénor entrait pile dans l'encadrement. Il avança 1 mètre dans la pièce.
« Je suis désolé, mais je crois que cette lettre m'est destinée. »
Zizo réagit aussitôt, plus rapidement qu'Augénor ne l'aurait cru. Il bondit sur le côté et attrapa le bout de bambou. Derrière Augénor, Jean d'Arc, suivi de Django et Idris, étaient entrés, tous armés de leurs bâtons. Le ministre se plaça immédiatement devant le fauteuil du conseiller pour le protéger, alors que Django et Idris attaquaient. Zizo les attendait, sans peur. Personne n'était plus agile que lui, un bâton à la main. Un premier coup de beau cueillit Django à la hanche alors qu'un second fauchait Idris au genou. Tous les deux s'écroulèrent. Chrysante s'était reculée. Elle jetait des coups d'œil paniqués en direction de Lali, restée au centre du combat. Zizo se plaça entre le sarcophage et les 3 soldats.
« Je crois plutôt que tout le monde a le droit de lire cette lettre » lança-t-il avec un air de défi. « Marie-Lune n'est-elle pas notre mère à tous ?»
Il s'avança 1 pas. Mais cette fois, Jean d'Arc fut plus rapide et d'un coup de beau en plein ventre, lui coupa la respiration.
« Attention, derrière toi !»
cria Chrysante. Django se relevait. Zizo le renversa à nouveau, presque à l'aveugle, d'un revers de beau qui le toucha à l'épaule, mais Jean d'Arc abattait déjà son beau de chêne sur lui. Zizo part à l'attaque in extremis. Ils échangèrent plusieurs coups, chacun esquivant les assauts de l'autre. Jean d'Arc était l'un des soldats les plus doués, mais Zizo n'avait rien à lui envier, surtout dans un espace aussi confiné. Il était vif, insaisissable. Il se déplaçait sans cesse dans la pièce, mais ne put éviter que Django et Idris, protégés par Jean d'Arc, ne se relèvent.
Augénor, assis dans son fauteuil devant la porte, observait l'affrontement sans un mot.
Zizo finissait par reculer, acculé. Il parvenait toujours à contrer les assauts, mais il ne tiendrait pas longtemps seul contre 3. Il décida alors de contre-attaquer, soudainement, et désarma d'un coup plus violent Idris. Il se baissa dans un réflexe fulgurant au moment précis où le beau de Django sifflait au-dessus de sa tête, puis se releva pour le frapper au flanc. Idris était étendu devant lui, mais parvint à agripper sa jambe. Le temps que Zizo se dégage, un coup lui fracassa la clavicule. La douleur fut telle qu'il en lâcha son arme. Déjà, Django et Idris s'avançaient à nouveau vers lui, alors que Jean d'Arc restait en retrait. Les beaux des 2 soldats allaient s'abattre sur son crâne. Zizo eut juste le temps de saisir le sarcophage de bois posé contre le mur pour se protéger. Les bâtons rebondirent avec une violence inouïe à son brisé net sur le bouclier.
« Stop !»
cria la voix forte d'Augénor. Jean d'Arc fit rouler le beau de bambou derrière lui pour que Zizo ne puisse pas l'attraper. Désarmé, menacé par deux baux levés à quelques centimètres de son cou, Zizo accepta de poser le bouclier. Augénor tenait Lali sur ses genoux, un peu comme il le faisait d'ordinaire avec Puggy. Mais autant le chiot et Augénor paraissaient s'être apprivoisés, autant Lali ressemblait à une enfant prise en otage entre les griffes d'un géant sadique.
« Si tu touches à un seul de ses cheveux !»
siffla Chrysante. Augénor afficha un sourire apaisant.
« Rassurez-vous, je ne vous veux aucun mal. N'inversez pas les rôles, c'est vous qui nous avez attaqués. Mes soldats se sont simplement défendus. Et nous ne sommes ici que pour assurer la sécurité. » De tous. C'est également au nom de cette sécurité que nous vous suivons, tous les deux, depuis des mois. Toi, Zizomis, mais surtout toi, Chrysante, la cachotière, depuis que tu as essayé de me faire croire que tu avais jeté ce livre dans la Seine. Il était préférable d'assurer une surveillance discrète lors de vos promenades dans les cimetières. J'aurais pu récupérer ce livre depuis longtemps, c'est vrai, mais puisque nos savants étaient incapables de trouver la solution de ce rébus, après tout, autant miser aussi sur vous. La suite m'a prouvé que j'avais raison, non ? Le conseiller balaya du regard la chambre mortuaire. Zizo serra les poings. Ainsi, des soldats aux ordres d'Augénor les avaient suivis partout, pendant des semaines. Jean d'Arc restait imperturbable. « Maintenant, Chrysante, poursuivit Augénor avec autorité, tu vas me donner ce livre. Nous allons le détruire et tout sera terminé. » Chrysante serra son sac contre elle, plus fort encore qu'elle ne serrait d'habitude sa poupée. Jean d'Arc s'avança. Chrysante tenta de le mordre, de le griffer, se tortilla comme une furie. Mais le ministre des Punitions se montra insensible à la douleur et finit par arracher, sans la moindre violence, le sac de toile. Il en tira le livre de Piersol et le remit au conseiller. La voix d'Augénor prit un ton plus solennel encore. « Je me fiche de ce que ce livre contient. Sans aucun doute un tissu de mensonge, uniquement destiné à entretenir la haine entre nos deux tribus. Regardez ce qu'est devenu Mordelia. Remerciez-moi de vous libérer de ce livre maudit. »
Il fit un signe de la tête. Jean d'Arc, d'une poigne forte, brisa le beau de bambou en cinq. Puis, il décrocha la torche et mit le feu au morceau de bois.
« Non !»
cria Chrysante. Elle essaya de se lever, mais Jean d'Arc s'était à nouveau positionné pour la bloquer. Avec désinvolture, Augénor jeta le livre dans le feu.
« Voilà, tout est terminé. »
Le livre flamba aussitôt. Dans quelques minutes, il n'en resterait plus qu'un petit tas de cendres.
« Nous n'avons plus qu'une dernière formalité à régler, » continua Augénor d'une voix presque joyeuse. « Vous vous rendez compte, je pense, que vous pourriez être jugé pour haute trahison. Vous avez dissimulé au conseil un livre interdit. »
« Et le brûler !» cracha Zizo. « Ce n'est pas de la haute trahison !»
Les beaux de Django et d'Idris se rapprochèrent de son cou. Augénor leva la main en signe d'apaisement.
« Mais vous avez également découvert ce lieu sacré. Cela pèse aussi dans la balance, en votre faveur. Voilà donc ce que je vous propose. Vous me promettez de ne jamais parler de ce livre, ni bien entendu d'en révéler à quiconque le contenu, et en échange, le ministre des Punitions, ici présent, s'engage à ne pas vous poursuivre pour haute trahison. »
Jean d'Arc, aussi immobile qu'une statue gardant l'entrée du pavillon des soldats, continuait de maintenir Chrysante dans l'étau de ses bras. Zizo éclata de rire.
« Tu bluffes, Augénor ! Tu ne pourras pas nous empêcher de parler ! Et en ce qui concerne notre prétendue haute trahison, je doute que tu obtiennes la majorité du conseil pour nous mettre en prison. »
Augénor semblait s'attendre à cette réaction.
« Bien, puisqu'aucun de vous ne paraît prêt à coopérer, Commençons par appliquer une première punition sur la plus raisonnable de vous trois.
De vous trois.
Devant les roues du fauteuil d'Augénor, le feu continuait de flamber, achevant de dévorer le livre et le bambou brisé. Du bout des doigts, le conseiller souleva la lie de ses genoux, se pencha en avant et la tint par les pieds au-dessus du bûcher. Les cheveux de laine de la poupée touchaient presque les flammes. Chrysanthe roulait des yeux exorbités, tentait de se débattre comme une forcenée, mais Jeanne d'Arc ne lui laissait aucune liberté de mouvement.
« Juste une promesse de silence, » répéta Augénor en baissant un peu plus encore la poupée. Quelques flamèches jaillirent au bout de ses cheveux. Le haut de son visage de porcelaine commençait à cloquer.
« Lâche-la !»
hurla Chrysanthe d'une voix plus aiguë que jamais.
« Lâche-la ! Ou je te promets que tu brûleras en enfer !»
C'est demandé si gentiment, fit Augénor.
Son pouce et son index s'ouvrirent, et la poupée tomba dans les flammes. Zizou ne put se retenir. Il repoussa Django et Idriss avant qu'il n'ait le temps d'anticiper son geste et bondit jusqu'au feu. Il le piétina et éjecta Lali du foyer d'un coup de pied. Déjà, les deux soldats étaient sur lui, prêts à le frapper.
« J'en appelle au conseil !»
cria Zizou aussi fort qu'il le pouvait.
« J'exige d'être jugé par le conseil !»
Jeanne d'Arc fronça les sourcils.
« En tant que grand serf, répliqua froidement Augénor, « je représente le conseil. »
Il allait baisser le bras pour donner l'ordre à Django et Idriss de punir l'insolence du garçon.
« Non !»
fit soudain une voix derrière le fauteuil roulant. Tous se retournèrent. Alix se tenait dans l'encadrement de la porte. L'ombre de sa silhouette couronnée enveloppa la pièce d'une pénombre supplémentaire.
« Non !»
répéta la reine. « Tu ne représentes qu'un neuvième du conseil. » Django et Idriss esquissèrent tout de même le geste de frapper Zizou. Ils avaient sûrement estimé qu'ils n'en auraient plus l'occasion après. Une tornade les souleva dès que leurs bras bougèrent et ils se retrouvèrent catapultés contre le mur de pierre opposé à l'autre bout de la pièce. Akan, qui venait d'intervenir, rassembla leurs deux beaux et les brisa sur ses genoux. Augénor, profitant du désordre, fit rouler son fauteuil jusqu'au sarcophage. Il pivota pour éviter que ses roues ne roulent sur les braises encore fumantes et se retourna en souriant vers Alix.
« Je suis désolé, Majesté. J'ai dû agir dans l'urgence. Je n'ai pas eu le temps de te réveiller. Et je voulais te réserver cette merveilleuse surprise. » Il posa la main sur le sarcophage et se tourna vers Akan. « Celle qui scellera définitivement la paix entre nos deux tribus. La tombe a été découverte. La tombe de notre mère à tous. »
Jeanne d'Arc avait lâché Chrysanthe, qui se précipita pour ramasser la lie, encore fumante, et la presser contre son cœur sans craindre de se brûler. Zizou soufflait. Le baratin d'Augénor le dégoûtait. Il laisserait le soin au conseil de débattre pendant toute une journée, s'il le fallait. Tout ce qui lui importait, c'était qu'Alix était venu le sauver. C'était qu'Alix lui souriait. C'était qu'ils étaient réconciliés.
Augénor continuait de regarder alternativement Akan et Alix.
« Comment avez-vous su ?» demanda le conseiller. « Qui vous a prévenu ?»
Un petit champignon, court sur pattes, à la tête rouge couverte de boutons, entra dans la pièce, essoufflé, suivi de Sabi, vêtue d'un pyjama qui lui arrivait à mi-cuisse. Elle ébouriffa les cheveux sur la tête de l'historien qui mesurait 20 centimètres de moins qu'elle.
« Mon petit Valère est peut-être le plus nul du monde en hiéroglyphes, mais question oreille, il capte mieux les ultrasons qu'une chauve-souris. Dès qu'il a entendu du bruit dans les couloirs des savants, il a couru me prévenir. J'ai réveillé Sa Majesté en personne et Sa Sainteté le secrétaire général de la paix, et nous voilà !»
Elle fit trois pas, se hissa sur la pointe de ses pieds nus et embrassa son géant. Zizou hésita un instant, puis, incapable de résister sans le moindre respect du protocole, traversa la pièce pour embrasser lui aussi Alix. Ils restèrent ainsi,
une éternité, enfin réconciliés, blottis dans les bras l'un de l'autre. Ni Zizo ni Alix ne virent dans leur dos le regard noir que leur lançait Chrysante. Pas davantage qu'Akane et Sabi ne virent derrière eux celui de Valère, tout aussi assombri de jalousie. Sabi se décolla enfin de son champion et s'approcha du sarcophage.
Ainsi, c'est ici que dormait depuis tout ce temps Mama Luna. Franchement, c'est moins confortable que le baldaquin des appartements de la reine.
Elle se pencha sur la sépulture, et tous ceux qui étaient dans la pièce, à l'exception d'Augénor, firent de même. Le masque d'or brillait toujours autant. L'armure de bronze paraissait toujours aussi invulnérable. Mais son cœur et son ventre étaient nus. Le diamant et le rouleau de papyrus avaient disparu.